c'est pardonner. Et pour cela, nous allons lire un passage un petit peu long dans Matthieu 18, des versets 23 à 35. C'est long, mais il faut le lire. Il faut s'assurer qu'on a bien compris ce qui est dit dans cette parabole. Alors le projet de ce matin, ça va être de décortiquer cette parabole, hein, pour vraiment réaliser ce qu'elle contient, et puis ensuite d'en tirer rapidement quelques éléments qui nous serviront pour notre vie de tous les jours, en tant que chrétien. Matthieu 18, 23 à 35. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, dit Jésus, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons bien sûr revenir sur cette parabole, mais d'abord dire que la parole de Dieu est un miroir. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne me lance pas dans une figure de style, hein, oratoire. C'est la parole elle-même qui se révèle ainsi. Dans Jacques 1, versets 23-24, il est dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est un miroir spirituel qui nous montre ce que nous sommes, c'est-à-dire qui nous révèle le péché qui est en nous. Amen. Qui dévoile notre vieille nature. Romains 3, verset 9-10 déclare « Tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Donc un miroir qui nous dit non seulement la vérité sur nous-mêmes, mais aussi qui nous enseigne ce que nous devons faire, ce que nous devons être pour ressembler chaque jour davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 25 nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors ce matin, frères et sœurs, nous n'allons pas retourner le miroir pour ne pas être dérangés par les reflets qu'il nous renvoie, mais nous allons, au contraire, vouloir ne rien camoufler afin de pouvoir confronter cette image que ce miroir nous renvoie de nous-mêmes. Parce que c'est ça qui est salutaire. Confronter l'image que le miroir nous renvoie de nous-mêmes. Alors rentrons de plein pied dans cette parabole de Matthieu 18. Elle nous parle de la position du chrétien face au péché. Et pour ne pas nous abriter derrière le paravent facile de la généralisation, hein, la position du chrétien face au péché, bon, c'est bien. Mais elle nous parle de notre position à nous. À nous qui sommes là ce matin, dans ce lieu-là précisément. Et mieux encore, elle nous parle de ma position, de ta position à toi, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous considérer comme étant des victimes du péché. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me tombe dessus? J'ai pas voulu ça. C'est pas ma faute. Mais parole qui nous montre au contraire que nous sommes responsables et coupables devant le Seigneur. Parabole qui, évidemment, développe aussi, en parallèle, le thème du pardon et de la grâce. Alors, quels sont les éléments principaux qui nous intéressent ce matin? Il y a un roi. On nous parle d'un roi dans cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. On comprend que ce roi fait référence à la personne de Dieu. Et on comprend du même coup que chacun d'entre nous se trouvera un jour dans cette situation-là qui est décrite d'avoir à rendre compte devant Dieu, d'avoir à rendre des comptes à Dieu. Donc ce matin, c'est sérieux cette histoire. C'est sérieux. Ensuite, on a le serviteur et ses compagnons. Le serviteur, c'est un type du croyant dans cette parabole. Donc, de nous-mêmes et de nos frères dans la foi. Donc, inutile de regarder son voisin plus ou moins discrètement. Chacun, ce matin, pour sa part, est concerné par ce qui est dit dans cette parabole. Et puis, il y a la dette. La dette, elle représente le péché. Parce que nos péchés sont des dettes devant Dieu. Jésus nous raconte donc l'histoire d'un serviteur qui doit une somme démesurée au roi son maître. On nous dit 10 000 talents, qui était la monnaie de l'époque en ce lieu-là. Alors certains commentateurs ont risqué des calculs, alors certains ont trouvé que ça correspondait vaguement à 25 millions d'euros, d'autres à 50 millions d'euros. Bon, du simple au double, mais ce n'est pas ça qui est important, hein. On ne peut pas se focaliser là-dessus. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'il s'agit d'un nombre colossal, une somme gigantesque, hein, et donc impossible à rembourser dans les faits. Devoir une dette comme ça, c'était impossible à rembourser. Alors on ne sait pas ce que ce serviteur a fait pour dépenser un tel montant, quand même. Hein ? Bon, alors certains ont avancé l'idée que peut-être il s'agissait comme serviteur d'un administrateur des affaires du roi et qu'il avait fait de mauvais choix et que, voilà, il avait engagé de l'argent du roi et que celui-ci, ben, venait lui réclamer. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le serviteur, il n'était pas solvable face à une somme pareille. Et donc la sentence du roi tombe, pas solvable, à l'époque biblique, eh bien, on avait le droit d'exiger, le créancier avait le droit d'exiger que son débiteur, eh bien, il soit vendu en esclavage. Lui, sa famille, tous ses biens s'il en avait. Donc perspective terrible. Alors le serviteur va promettre l'impossible. Parce qu'il n'aura jamais assez de quoi payer. Accorde-moi un délai. Je m'acquitterai de tout. Il implore la miséricorde du roi. Qui, ému de compassion, nous dit la parole, décide de lui supprimer la totalité de sa dette et de le laisser repartir librement. Alors ce n'est pas dit dans le texte, mais on peut imaginer que certainement, quel soulagement, quelle joie, quel bonheur hein, chez cet homme. Mais ne le voilà-t-il pas, ce même personnage, juste après l'expérience qu'il vient de vivre, tellement inattendue et merveilleuse, qu'il se met à exiger, alors d'une manière extrêmement brutale, hein, d'après ce qu'on a lu, il exige le remboursement immédiat et intégral d'une somme de 100 deniers, ce qui représentait, toujours selon les calculs des mêmes, environ 4 mois de salaire. Somme qu'il avait donc prêtée à un collègue. On voit qu'il s'agit d'une dette infiniment moins grande, moins importante que les 10 000 talents précédents dont on a parlé. Et donc, surtout, ce qui nous intéresse, et ce qui intéressait le serviteur, c'est que cette dette, bon, elle était possiblement remboursable, à échéance raisonnable. 4 mois de salaire, bon, on peut arriver, hein, en serrant la ceinture, comme on dit, à rembourser. Mais au contraire de son maître, du roi, ce premier serviteur, eh bien, il va refuser tout arrangement en faveur de son compagnon. Ah, attitude inattendue. Pourtant, son compagnon, il l'implore. Il lui fait même la même prière, avec les mêmes mots que lui-même avait fait au roi. Aie patience envers moi, et je te paierai. Eh bien, ça ne résonne pas du tout hein, chez le premier serviteur, ça. Il reste inflexible et n'hésite pas à envoyer son camarade en prison. Alors, on voit dans la parabole que l'ingratitude de ce comportement va provoquer la colère du roi, de son maître, qui va lui reprocher, et c'est là que ça nous intéresse, particulièrement nous, qui va lui reprocher de ne pas avoir su, à son tour, manifester la miséricorde dont il avait été lui-même l'objet précédemment de la part de son maître. Alors ce maître, qui est en colère, qui est irrité, eh bien il va le faire emprisonner cette fois. Il le rattrape en prison, livré au bourreau, jusqu'à extinction de la dette. Ce qui, on l'a vu, était impossible, étant donné l'énormité de la somme. Impossible à rembourser. Ça signifiait donc, pour le personnage en question, prison à perpétuité. Et ça nous donne une image de ce qu'est la damnation éternelle. La parabole se termine ainsi. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je crois que dans les églises, on ne réalise pas vraiment la portée de ce texte. Il me semble, peut-être que je me trompe, mais quand même, on a tendance à le prendre un peu à la légère. Parce que les choses qui sont dites sont des choses fortes. Et on ne peut pas prendre cette histoire-là à la légère. Alors, quel enseignement pour nous, concrètement, nous, chrétiens, aujourd'hui ? Éphésiens 4, verset 32, nous dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que un des sens du terme grec qui a été traduit en français par pardonner signifie justement remettre une dette. C'est un des sens du mot grec. Donc pardonner, ça vaut vraiment dire remettre une dette, hein, dans son sens original. Donc, lorsque je pardonne, eh bien, je remets la dette de quelqu'un à mon égard. Lorsque je suis pardonné, c'est ma dette qui est annulée. Amen. Colossiens 3, verset 13. Alors, c'est pas facile, ça, quand même. Hein ? C'est un challenge, comme on dit, pour le mettre en œuvre dans nos vies. Colossiens 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. On se rend compte que pardonner n'est pas une option, pourrait-on dire, dans la vie du chrétien. C'est un commandement. Et si je n'entre pas dans cette chose-là, je désobéis à un commandement du Seigneur. C'est pas rien. Bon, comme désobéir à n'importe quel commandement. Mais ça, c'est un commandement. Pardonnez-vous aussi. Ça ne dépend pas de notre bon vouloir. Ça ne dépend pas si... Ah ben oui, bon, ben je vais pardonner parce que bon, ça fait assez longtemps que je l'ai laissé mariner dans sa sauce. Je vais pardonner maintenant. Ou alors, ah non, hein, lui ou elle ne mérite absolument pas d'être pardonné. Tu sais ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Jamais je pourrais le pardonner. Mais tu es chrétien ? Il a sauté des lignes là, en lisant. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre a interrogé Jésus à ce propos-là. Donc, une interrogation partagée, hein, à travers les siècles. La nature humaine est toujours la même. Matthieu 18, verset 21-22. Voilà Pierre qui, face à ce commandement, cet enseignement de Jésus, s'adresse à Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. On voit que Pierre, face à ce problème du pardon, il tente de rajouter une loi. Ils avaient déjà beaucoup de lois à l'époque, les Hébreux, les Juifs. Ils vont rajouter une autre. Pourquoi 7 fois ? Peut-être qu'il estime que 7 étant le chiffre, le nombre parfait, eh bien, il serait approprié de pouvoir pardonner une offense jusqu'à 7 fois. Mais attention à la 8e, parce que ça ne va pas être pareil. C'est 7 fois. Mais non, ce n'est pas ça que le Seigneur attend. Il lui répond 490 fois, ce qui est totalement surréaliste. On n'imagine pas de pardonner 490 fois d'affilée. Mais ça nous enseigne qu'on ne doit pas calculer, lorsqu'on est chrétien, de cœur, pas de nom, on ne doit pas calculer la mesure du pardon qui est à offrir à notre frère, à notre sœur en Christ. On comprend que c'est à l'infini qu'il faut pardonner, parce que c'est le modèle de Jésus. Nous sommes tous pécheurs, comme ce serviteur. Et Jésus a pris à la croix la place que l'homme, au sens général, méritait. Et comme ce serviteur, eh bien nous sommes les uns et les autres incapables de rembourser la dette du pardon de Dieu. Impossible. ça a coûté trop cher. Le prix de la vie du Fils de Dieu. Trop cher. Hors de notre portée. Et c'est donc par pure grâce que notre dette, eh bien, elle a été annulée à la croix du calvaire. Amen. On est content. Merci Seigneur. Mais une fois que nous avons été bénéficiaires de cette grâce, donc par définition illégitime et imméritée, en tant que pécheurs pardonnés, au bénéfice de cette grâce, eh bien, nous avons une responsabilité. Ça, on n'aime pas trop la responsabilité. Hein. Oh. Et pourtant, le Seigneur nous a donné une responsabilité, entre autres. Manifester l'esprit de la grâce en nous, en direction des autres. Le premier serviteur n'y a pas compris que le Seigneur attendait ça de lui, qu'il attendait qu'il puisse répercuter la grâce reçue envers ce compagnon. Ça, c'est la nature humaine qui est ainsi. Nous sommes naturellement ainsi les uns les autres. Mais le chrétien, il est censé ne pas être comme les autres. Il a quelque chose de plus que les autres, puisqu'il est au bénéfice de la grâce du Seigneur. Le chrétien, il est censé avoir conscience de l'énormité de la dette qui lui a été remise. Jésus est monté sur la croix à ma place, à ta place. Il a été torturé sur cette croix. Il a été assassiné. Et cela alors que je n'ai aucun mérite. Que nous n'avons les uns les autres aucun mérite, mais vraiment aucun, uniquement par miséricorde divine. Alors le chrétien, eh bien, il doit manifester dans sa vie une disposition à pardonner. Waouh ! Trop dur, diront certains. Mais pourtant, il est clair que le pardon divin que nous avons reçu doit changer notre comportement. S'il n'y a pas de fruit, on peut se poser des questions. Et d'abord, envers nous-mêmes. Hein, pas juger les autres, hein, mais envers nous-mêmes. La loi du talion, c'est bien pratique finalement. Hein. Oh, tu m'as fait ça, je te fais ça, hein. Mais le chrétien ne peut pas agir selon la loi du talion. Parce que le Seigneur ne nous a pas appliqué le châtiment que nous méritions. Amen. Donc il attend notre miséricorde envers notre prochain, nos frères, nos sœurs, de la même façon. Et c'est là que la notion de sanctification, elle prend toute sa place. Un changement positif doit se produire dans les attitudes du croyant. On n'est pas seul face à cela. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre la méthode Coué. Je vais le pardonner, je vais le pardonner, je vais le pardonner, je vais y arriver, si, si, je vais y arriver, je vais le pardonner. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est lui qui va nous donner le vouloir et le faire, nous dit la parole. Amen. Hein, heureusement, sinon c'est impossible de se sanctifier, c'est impossible de pardonner si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en nous. Alors ce matin, mes frères et sœurs, ce qu'il reste à dire, c'est que mettons cela en pratique, les uns et les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais pardonné, mais ce n'est pas, me semble-t-il, je vous ressemble, vous me ressemblez, pas tout à fait acquis tout le temps. Hein ? Parce que le pardon, c'est un choix. Je dois décider d'obéir. C'est un commandement et c'est un choix. J'ai le choix de dire oui, de dire non. parce que nous sommes des êtres créés libres, à l'image de Dieu. Ça ne dépend pas de mes sentiments, parce que parfois, ça ne serait pas possible. Hein. Ça ne dépend pas des sentiments de l'autre à mon égard, parce que là encore, ça ne serait pas possible. La seule chose, frères et sœurs, que nous devons prendre en compte dans cette affaire, c'est de réaliser, de vraiment intégrer quelle est la grâce de Dieu dont je suis le bénéficiaire. Et c'est ça qui va être le déclic, le moteur qui va faire que nous allons pouvoir entrer dans ce plan que le Seigneur a mis en place pour nous. On pourrait dire beaucoup de choses encore. Beaucoup. Il faut terminer. Alors pour terminer, je dirais, prenons garde à la dernière partie de la parabole, qui nous parle d'un roi irrité, d'un roi qui n'est pas content. Et prenons cela comme un avertissement salutaire. Parce qu'on voit que le méchant serviteur, donc celui qui ne s'est pas montré à la hauteur du pardon qu'il avait reçu, qui s'est enfermé dans le refus de pardonner, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Si vous avez lu comme moi, le bénéfice de la grâce reçue lui a été enlevé, livré au bourreau et donc jeté en prison. Je vous laisse un dernier verset pour terminer. Jacques 2, verset 13, qui nous dit « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Père céleste, par un acte de notre volonté, Seigneur, nous te demandons ton parfait pardon. Passe, Seigneur, au travers de nous, par ton esprit, vers tous ceux qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, un jour ou l'autre, dans notre vie, Seigneur. Nous voulons t'abandonner tout ressentiment et toute amertume. Et pour cela, Seigneur, nous voulons nous en remettre à celui qui juge justement, notre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre 2, verset 23. Amen.